J'ai passé 3 jours au lit. Donc on pourrait penser que j'aurais eu beaucoup de temps à réfléchir et je saurais de quoi je vais parler ce soir. J'étais malade. Je suis toujours un peu, mais ça va beaucoup mieux. Ça m'avait donné beaucoup de temps à lire un livre que je lis depuis un certain temps et que je n'arrivais pas à vraiment terminer. Je lisais et puis je mettais à côté, je lisais autre chose. C'est un livre de Stephen Batchelor qui est un peu en continuation de ce qu'il fait habituellement, Stephen Batchelor. Je ne sais pas si vous êtes familier avec lui. C'est quelqu'un qui a un chemin vraiment à part, qui a pratiqué dans plusieurs écoles bouddhistes. Il était moine très très jeune en Inde, moine tibétain. Parmi les premiers occidentaux à être ordonné moine, il a quitté cette tradition et il est allé en Corée, où je ne sais pas s'il était ordonné moine, mais en tout cas, il a vécu dans un monastère un certain temps, un monastère zen. Il avait aussi pratiqué dans les écoles Theravada. Et il est c'était l'intellectuel, et donc il avait étudié toutes ces pratiques, toutes ces écoles, toutes ces traditions, l'histoire, la philosophie, les langues. Il a étudié le sanskrit, le pali, etc. Et depuis, enfin, pendant et depuis, il écrit des livres où il met en question la façon en Occident, on a tendance à juste adhérer à une tradition, une forme, une parole, et on perd le sens originel de ce qui a été dit, ou ce qui est, de quoi il s'agit, quelle est à l'origine de tout ça. Bon, je simplifie un peu son écriture, son processus, mais c'est ça. Et moi-même, je sens une certaine affinité. Je ne suis pas du tout un intellectuel comme lui. Je n'ai pas du tout le parcours dans différentes traditions qu'il a. Je suis aussi beaucoup plus jeune que lui. En même temps, ce que je partage avec lui, et vous savez ça, c'est cette retourner à l'origine de quoi il s'agit. Ne pas être accaparé par les formes et les dogmes ou les doctrines, des choses comme ça. Et c'est ce que je fais moi-même, dans ma propre pratique, dans mon enseignement, c'est ce que j'essaie de faire quand je fais des retraites avec vous, etc. Alors ça m'intéresse, parfois c'est un peu trop intello pour moi, mais j'essaie de persister quand même. Et ce livre, ce nouveau livre qu'il a, ça s'appelle After Buddhism, Donc après le bouddhisme, et je crois que c'est ce titre, c'est le bouddhisme revu pour un âge séculaire, pour la culture et notre culture actuelle. Pour le sortir de son cadre religieux, entre guillemets, sans enlever rien de l'essence. Alors, il retrace toute l'histoire de la vie de Bouddha, etc., la personne qu'on appelle Bouddha. Et d'ailleurs, il va être ici le 5 mai, Stephen, et je suis sûre qu'il va parler de ça, de ce livre. Enfin, j'imagine. Et donc, j'ai passé 3 jours à lire ça, j'ai presque fini. Et une phrase qui m'est restée, malheureusement, je me souviens que d'une partie de la phrase, c'est ce que c'était les derniers mots du Bouddha. Juste avant de mourir, il avait dit quelque chose du genre comme je vous ai toujours dit, en parlant de quelques disciples qui étaient autour de lui, en anglais, c'est en anglais, je ne sais pas comment, Joe, qui a traduit plusieurs livres de Stephen, aura traduit ça à un moment, mais en anglais c'est Things fall apart. Et, virgule, quelque chose après, dont je ne me souviens pas, mais je crois que c'est quelque chose de l'ordre de prenez soin de tout. Things fall apart, prenez soin de tout. Donc, tout se défait, je ne sais pas comment on pouvait traduire ça. Prenez soin de ça. C'est le Things Fall Apart qui m'a resté pour je ne sais pas quelle raison exactement. Enfin, je sais et je ne sais pas. Je sais parce que c'est mon expérience. C'est notre expérience à nous tous. Hein. Si on regarde autour de nous, si on regarde dedans, en nous. J'étais là, dans ma chambre, regardée par la fenêtre, et effectivement, rien ne restait figé. C'est-à-dire que la lumière changeait, le temps changeait, le météo changeait. Le chat était là parfois, parfois non, parfois dormait, parfois non. Il y avait des oiseaux qui arrivaient, ça incitait à approcher de la fenêtre. Le verre d'eau à côté s'est diminué, il fallait le remplir. Moi-même, mes symptômes changeaient. Parfois, je ne pouvais même pas, je pouvais pas continuer de lire, mais les yeux fermés. Je dormais, je me réveillais, ça va, je pouvais lire de nouveau. Enfin, tout, quand on dit tout, everything falls apart, things fall apart, c'est que ce n'est pas solide. N'est pas fixe. Et ça, on a une expérience directe de ça tout le temps. Tout le temps. Inspire, expire. Cligner les yeux. À un moment, j'ai mal au ventre, à un autre moment, non. Je vais aux toilettes. Ça y est, c'est fait. Et puis quelques heures plus tard, je dois aller aux toilettes de nouveau. J'ai mangé. Ça y est, c'est bon. Quelques heures plus tard, j'ai faim. Je casse une ongle. Ça peut être des choses aussi banales que ça, mais ça peut être aussi l'énormité de la vie et la mort. Entre guillemets, l'énormité, parce que tout s'agit de ça, mais on peut élargir ça à le va-et-vient de la vie. Et cette things fall apart, c'est à la fois tragique c'est le sublime de l'ordinaire, en fait. Et c'est cruel et c'est magnifique. Et l'un n'enlève pas l'autre. C'est... Et toutes ces pratiques qu'on fait, c'est ça, quand je lis ce livre, quand je lis les livres de Stephen Batchelor, je me souviens rarement de ce qu'il a dit. C'est très copieux, c'est très dense. Parfois, et c'est pas que je comprends pas le langage, hein, parce que c'est en anglais, mais c'est pas très très soutenu. Mais... Parfois, je dois lire les phrases plusieurs fois, parce que c'est très très dense. Et je ne me souviens plus après de ce que j'ai lu. Mais ce que ça me fait, c'est que ça résonne avec mon expérience. Et ça enrichit le fait de le lire et d'avoir cette résonance en moi-même. C'est comme si ça met une lumière sur ce que je sais déjà, ce qui est mon expérience. Et ça me permet de le enrichir, mais comment on dit enhance, madame la traductrice, interprète.
Renforcer, enhance the light, enhance the...
Right, make something brighter or clearer.
Magnifier.
Oui, peut-être magnifier, oui. Oui, peut-être. Et donc ça donne, oui, ça donne de l'ampleur à quelque chose comme ça, c'est la même idée. Et ça me ramène à ce que je sais déjà. Et c'est très plaisant dans ce sens-là de... Disons, ça m'aide à revenir. Ce que je sais déjà et ça me permet d'élargir et magnifier ça aussi. Donc cette pratique, je pensais à ça cet après-midi, la méditation entre guillemets, ce qu'on appelle la méditation, c'est pas vraiment ça dont il s'agit. Enfin, il s'agit de ça et en même temps, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que cette pratique de méditation nous aide à ne pas être fixés et figés dans nos positions et nos habitudes, et ça nous aide à ne pas être attachés à une émotion qu'on peut avoir face à tous ces défaits. Ou que je peux avoir en étant malade, ou que quelqu'un nous dit quelque chose qu'on n'aime pas, la colère, ou même une sensation qu'on aime beaucoup et donc on va s'attacher à ça. La méditation, ça nous aide à se libérer de ça, de ces attachements. Parce que On le fait, on expérimente le va-et-vient. Et si on peut observer, là, moi j'ai fait ça dans mon lit pendant 3 jours, j'avais la possibilité d'observer ce qui se passait, sans intervenir. Quand on est malade, on ne peut pas vraiment intervenir. Bah, on peut essayer de traiter les symptômes, mais il y a un processus physiologique qui se passe qu'on ne peut pas vraiment faire. Bon, j'ai pris la sulocoxinum quand j'avais très mal à la tête, j'ai pris quelque chose pour le mal de tête, mais il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Et donc, mais je peux observer ce qui se passe, comment je vis ça, comment je vis si j'ai des douleurs, si j'ai mal à la tête, si j'ai mal au ventre, si je suis fatiguée. Comment j'expérimente ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, à la fois, sentir ce qui se passe et sentir et observer la réaction que j'ai par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça, la méditation me permet de pouvoir faire ça. Et si je peux faire ça, j'aurai beaucoup plus de possibilités de ne pas m'enfermer dans mes réactions, c'est surtout les réactions en fait, de ne pas m'enfermer dans ça, dans ma réaction à ce qui se passe. Je peux l'observer, et si je peux l'observer, enfin, observer c'est beaucoup mieux, mais je prête attention à ça, je vais voir l'impermanence de ça. Je vais voir que ça ne tient à rien, en fait. Ça n'a pas pied. Ce n'est pas quelque part. Et comme tout le reste, ça va et vient. Il y a un énorme espace qui se libère quand on se rend compte de ça. Et cet espace, c'est nous, en fait. C'est nous. Et c'est là où on peut voir à la fois le tragique de ça, toute chose qui tombe en ruine, en fait, et le sublime de ça, les deux. Parce que cette nature transitoire des choses qui tombent en ruine, cette fragilité, si vous voulez, on voit le sublime dans ça. Le magnifique, oui. En anglais, on dirait magnificence. Il y a un mot comme ça en français, non?
Le même.
Le même, c'est ça?
Ouais.
Et c'est sublime et c'est magnifique parce que c'est transitoire. Parce que je devais écrire pour la formation que je faisais, j'étais censée faire aujourd'hui, hier, ma formation d'atelier d'écriture. J'étais censée écrire un texte, faire écrire pour vous, c'est... Non, pour écrire pour moi, c'est... Bon, bon, bon. Pendant quelques semaines, j'ai réfléchi à ça, et puis pendant le week-end, j'ai commencé à écrire un texte que je pensais que je devais amener hier, mais je n'y ai pas été hier. Et c'était compliqué pour moi parce que il ne s'agit pas de faire écrire. Il s'agit plutôt de ne pas faire écrire. Alors, comment ne pas faire écrire? Parce que là, c'est une formation pour animer les ateliers d'écriture. Donc, où on est censé être animateur et faire écrire les gens. Et pour moi, il ne s'agit pas de faire écrire, mais de ne pas faire écrire. Alors, comment je peux écrire un texte pour ça, pour cette formation qui n'est pas du tout zen, entre guillemets, où je vais passer pour... une allumée, si je dis un truc pareil. Je dis ça parce que, en écrivant ce texte, je me suis rendu compte que, parce que pour moi, le faire écrire, dans le faire écrire, il y a quelque chose un directif, aussi bien de l'intention que l'attention, Et c'est que si moi-même je suis dans une position de me faire écrire, quand j'écris, c'est comme si tout est déjà écrit d'avance, que tout est déjà dit. Il n'y a pas d'inconnu. Je sais où j'y vais. Il n'y a pas de saut dans l'inconnu. Et les mots sont morts, en fait. C'est pas vivant. Et je reviens, j'ai parlé de ça parce que je revenais à cette même chose dans cette... puisque c'est transitoire, puisque ce n'est pas figé, une expérience, un instant, un oiseau, une fleur, un mot, une sensation, c'est vivant. Si c'est figé, si ça ne bouge pas, c'est mort. Alors, il peut avoir quelque chose de magnifique, tragique et sublime dans le mort. Mais quand on l'aborde comme étant quelque chose d'impermanent, si on voit ça comme quelque chose de figé, alors là, on va pas l'apprécier pour toutes ses qualités. Pour son totalité, disons. On va voir juste un aspect de ça. Donc peut-être il y a des écritures qui sont mortes, qui dans des catégories que je considère mortes. Peut-être je peux l'apprécier pour ça. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, il y a plus de possibilités de donner vie à ce mort, dans ces mots, si je n'ai pas une idée préconçue de ce que c'est. Bon, ça devient un peu compliqué, donc on va pas continuer là. Mais... Donc j'étais un peu sauvée, je n'étais pas à ma formation parce que j'étais malade, et donc je n'étais pas obligée de donner des textes. Ah ben, c'était prêt, hein. Je pouvais l'amener, je pouvais le défendre s'il fallait, etc. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter des choses ou poser des questions?
Est-ce que tu disais que c'est... que le texte, de lire le texte de... C'est quoi son prénom ?
Stephen.
Stephen, d'accord. Te permettait de vivre. Je suppose qu'il y a certaines choses que tu as déjà mises en mots, dans ce que tu vis. Et là, c'est comme s'il y avait... Mais, même quand tu mets en mots, c'est à l'intérieur de toi. Alors que là, c'est à l'extérieur... quelqu'un d'autre qui écrit et tu lis des mots qui viennent rencontrer ton expérience. C'est comme ça que j'entends ce que tu dis.
Il y a quelque chose comme ça.
Ouais. Ça me fait penser de façon relative, mais je suis très 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 attachée, à une région qui s'appelle la Hague en Normandie, qui est une région de terre et de mer. Et il se trouve qu'il y a eu un film qui a été tourné là-bas et un livre. Est un roman qui a été écrit à partir de là. Et dans les deux cas, j'ai, grâce aux images, d'une part, et grâce aux mots, mon expérience intérieure qui est écrite et qui est filmée. Et ça m'a fait penser à
qui
ça.
Qui est écrite
et filmée. Et filmée. Et c'est extrêmement fort pour moi comme impression. Ça donne un relief, ça donne une espèce de rencontre, je sais pas, et c'est vrai que je pensais tout à l'heure quand quand tu disais ça, et dans un sens, on pourrait même dire que enfin, j'étais presque étonnée que tu puisses dire ça parce que justement tu travailles, tu réfléchis, peut-être même tu écris des choses, mais là c'est la rencontre avec ce que tu vis en fait, qui est écrit par quelqu'un d'autre. C'est un peu ce que j'ai entendu dans ce que tu dis.
Et je pense que c'est vrai de toutes pour les œuvres d'art, les films, les peintures, ou les sculptures, ou des pièces de théâtre, ou danse, je sais pas, l'art en général, quand c'est, entre guillemets, bon, mais c'est pas un jugement des qualités, mais ça, cette qualité, que ça nous touche quelque part, et ça fait vibrer en nous quelque chose d'universel, on dit. Parce que c'est universel parce que ça nous touche tous. Comme ça. C'est un film qui te fait ça, c'est quelque chose de, qui est, disons, vrai. Il y a une vie dans ce film. La personne a réussi à mettre quelque chose qui te fait ça, ou le livre. Il y a une authenticité, je crois, dans ce qui nous touche et qui. Peut-être quelqu'un qui ne connaît pas du tout la région va pas sentir la même chose que toi, mais va sentir vibrer quelque chose. Mais comme il n'a pas la même connaissance que toi, il va quand même faire quelque chose. Peut-être, je sais pas.
Moi, c'est toute l'expérience avec la rencontre avec cette pratique que je ne connaissais absolument pas et la première fois où j'ai entendu les premiers discours, enfin, talk, l'enseignement, c'était ça. C'était juste reconnaître d'un coup. Sans en connaître, mais ça résonne comme tu dis. C'est juste cette rencontre qu'à un moment donné qui fait que tiens, c'est ça qui fait que tu t'engages dans la pratique, enfin, en tout cas, à travers quelque chose que tu connais pas du tout et qui à un moment. Alors, est-ce que c'est l'universalité de. Qui fait que ça produit cet effet-là, je sais pas. Mais
en tout cas,
c'est ça qui m'a amené sur ce chemin, cette résonance.
Ça a révélé aussi, non ? C'est ce mot-là. Ça a résonné, ça a révélé, ça a appelé quelque chose.
Ça m'a amené à le marcher.
Moi, je pense que tous à peut-être à différents degrés, c'est ça, parce que sinon on ne sera pas là. On a quelque chose nous parler là.
Un livre, c'est un témoignage en fait. J'ai entendu des auteurs dire qu'ils écrivent pour être lus. Ils ne sont pas lus. Pas la même. Et je ressens un livre comme. Enfin, pas tous les livres, mais comme pouvant être un témoignage. Et c'est ce témoignage de cet homme qui. Le témoignage que tu avais lu, qui a appelé quoi. Enfin, quelquefois, les témoignages, c'est en vivant. Enfin, c'est avec.
Moi, c'est vivant, c'est pas lecture.
Ah, c'était un. D'accord.
Absolument jamais rien.
C'était en direct ?
J'étais dans un cadre de retraite où, pour la première fois, j'avais une retraite de méditation et je ne savais absolument pas à quoi m'attendre.
Ah, mais tu étais quand même déjà dans une retraite.
J'ai commencé comme ça.
Donc le taux dont tu parles, c'était dans la retraite ? Il y avait déjà un appel avant, non?
Moi, je n'ai jamais entendu un talk avant de venir dans une retraite non plus. Hein.
Non, mais il nous a dit que c'est ça qui a fait écho, qui a résonné, peut-être. Enfin.
Chacun son chemin. Mmh. Et ce n'est pas tellement important à quel moment c'est ou de quelle façon, mais c'est... si on, comme on dit dans cette tradition, quand le... mais ça s'applique à tout, hein, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et c'est vrai que quand on est disposé à recevoir quelque chose, on va l'entendre. Si on n'est pas disposé à l'entendre, on ne va pas l'entendre. Je raconte toujours l'histoire, hein, que un jour, mon maître Roshi donnait un talk sur la compassion. Et je trouvais que c'était magnifique. Et après, je lui ai dit. Et j'ai dit, ce sera vraiment bien si tu parlais plus de la compassion. Hein. C'est pas souvent, hein. Je t'ai jamais entendu parler de ça, ou je sais pas. Ma mère m'a dit, mais je parle de ça depuis des années. J'entendais pas. Je n'étais pas disposée à entendre ça. Hein. C'est tout à fait cohérent dans mon cheminement, maintenant que je vois ça, que j'ai jamais pas entendu. Mais c'était un peu un choc quand même.
Ça me fait souffrir à la façon, c'est pas la première fois que j'entends le dire, mais quand un disciple est prêt, ou un étudiant est prêt, le maître arrive. C'est étonnant, c'est comme si le maître, j'imagine concrètement, dans le sens premier du terme, le maître arrive et pointe son nez et me voici. Alors que j'aurais pu penser qu'on dirait quelque chose un peu autrement, quoi. Quand la personne est prête, elle va vers un maître. Je trouve ça intéressant.
Bah, ça peut être.
Oui. Mais je trouve que c'est très.
Les détails ne sont pas présentés, parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
Je trouve que c'est très humble de dire ça comme ça, enfin, c'est j'aime bien. Ça peut être ça.
Mais c'est pareil. C'est pareil.
Que le disciple va vers le maître.
Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il y a un tel appel qui prend son billet d'avion et va voir quelqu'un.
Ouais.
C'est pareil.
C'est vrai.
C'est que le maître s'est déjà manifesté à l'intérieur.
Oui, c'est vrai. Et on ne sait pas comment ça va se passer non plus, hein. Ni où ça va amener, quelle forme ça va prendre, etc.
J'aime bien cette idée de d'ouverture ou de mise à disposition ou de d'une certaine, je sais pas, maturité ou un état dans lequel tu serais même soudainement ouverte à entendre ou à expérimenter quelque chose qui n'était pas possible auparavant. Et là, je m'apprête à faire un voyage toute seule et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et j'aime bien l'idée. Je suis un peu stressée par rapport à ce voyage, mais j'aime bien l'idée que je serai en train de m'ouvrir, de me mettre à la disposition d'un maître qui arrivera peut-être. Enfin, quel maître, je n'en sais rien, mais de dire là, je suis arrivée à un point où je suis prête à accepter ce qui arrivera. En tant que maître, je suis ouverte à ça, sous quelle forme qu'elle soit.
Bien entendu, maître, et sous quelle forme qu'elle soit, c'est pas forcément zen, alors c'est ça? C'est pas forcément bouddhiste?
Non,
forcément...
je pensais plutôt à l'enseignement, aux enseignements de la vie.
Oui, d'accord.
Dont les maîtres zen, mais au maître dans le sens de...
Oui, oui, l'enseignement, c'est juste.
Tout bêtement, je sais que comme je pense souvent en questions linguistiques,
Parfois, je vais apprendre un mot et après, je vais l'entendre partout, alors qu'avant, j'avais l'impression de ne jamais avoir entendu ce mot. Et je le vois dans les livres, sur les affiches, je suis là. Mais tout le monde se met à écrire et à prononcer ce mot, hein, c'est ça. C'est pas forcément un maître, mais peut-être le mot le plus juste pour englober à la fois des maîtres zen et d'autres formes d'enseignement, c'est juste enseignement, transformation, petite transformation, grande transformation.
Ce qui est essentiel dans cette ouverture, parce que c'est ça qui permet, entre guillemets, on est disposé à recevoir, quoi, et donc on ne sait pas ce qui va venir.
Ça me rappelle dans la vie. Quand je vais rencontrer quelqu'un que je connais très bien, je connais son visage. Mais quand je rencontre la personne, son visage est complètement imprévisible.
C'est vrai.
Et ça fait ça avec n'importe quoi, le bruit d'une voiture. Je sais très bien ce que c'est le bruit d'une voiture qui démarre. Mais quand j'écoute vraiment une voiture qui démarre, c'est complètement imprévisible. C'est complètement inconnu, le bruit de cette voiture qui démarre. Pourtant, je connais ça par cœur, mais si je l'écoute vraiment, non, je connais pas. C'est inouï.
Inouï, exactement.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Ça me rappelle aussi ce dont tu parlais tout à l'heure avec tes 3 jours passés au lit devant une fenêtre que tu redécouvrais en permanence, alors que c'était toujours la même chose. Pièce, toujours la même fenêtre, toujours le même chat, le verre et tout. C'est une sorte d'ouverture à redécouverte de quelque chose qui pourrait, que l'on pourrait croire déjà connu, déjà dans sa tête.
Archi connu,
archi vu.
Oui, ça exige un pas en arrière, mais c'est une autre façon de regarder. Il faut qu'on s'ouvre l'espace autour de ce que c'est pour laisser surgir autre chose. Je joue à ça parfois. Je sors du métro chez moi et je dis, ok, c'est la première fois que je vois cette rue, bien que je vis là depuis presque 25 ans, cette rue, donc je connais. Mais cette rue a changé beaucoup, hein, depuis que je suis là. Toi, tu peux témoigner. Hein. En même temps, c'est plus ou moins pareil. Hein. La bouche du métro n'a pas changé. Et c'est très intéressant de prendre ce pas en arrière et regarder ça comme si c'est la première fois. Comme avec le visage de quelqu'un.
Ça rend le monde absolument merveilleux.
Oui, c'est ça, c'est merveilleux.
Les voitures qui démarrent.
C'est incroyable.
En attendant le bus cet été, j'ai fait cette expérience où j'allais m'asseoir sur le banc, j'attendais le bus et me dire maintenant je vais simplement écouter les bruits de la circulation. Mais c'était merveilleux.
C'est fou, hein.
Ouais.
On voit ça souvent avec les enfants qui découvrent des choses qui pour nous sont des choses banales, mais qui pas un certain fruit ou
oui.
Personne.
Oui, c'est ça, les
Monty Python.
Quoi?
Monty Python. Combien de fois que, je sais pas, des livres, des films que l'on aime, mais eux, ils n'ont pas encore connu.
Ou même les choses que, bon, on a des idées très très fixes, surtout moi, sur Donald Trump. Mais je trouve, mais c'est magnifique ce que toutes les comiques font. Les comiques américains, ils sont déchaînés. Je ne sais pas si tu regardes un peu ou non. Ils sont mais déchaînés avec Trump. Et ou les dessinateurs qui font un peu l'équivalent de Charlie Hebdo américain. Et c'est formidable parce que ça, on le voit autrement. Bon, c'est pas forcément un truc il renvoie à un autre aspect de Trump sur lequel on est peut-être très figé, mais en même temps ça libère l'espace autour et on voit d'autres choses. Et c'est un peu comme ses dessins, je parle de ça aussi parfois, il y avait ses livres, je sais pas, il y a 20 ans peut-être, les livres magiques, je sais pas, tu regardais, il y avait un dessin, il y avait une image, et si tu le regardais comme ça, bon, on voyait rien. Et si tu, il y avait une certaine détente dans le regard, je sais pas comment dire, mais vous voyez ce que c'est, et on voyait une autre image là. Et c'est un peu comme ça, si on peut avoir cette même détente. On voit l'autre chose. Et ce n'est pas que c'est autre chose vraiment, c'est la même chose. Bon. Bon. Voilà. Je pense que je n'ai rien à ajouter.